Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Au menu aujourd'hui, l'info du jour, les agriculteurs mobilisés dans Rennes. Un reportage avec la Fédération des centres sociaux de Bretagne, inquiets pour leur structure. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Une interview pour annoncer la projection d'un pays de papier sur les mineurs non accompagnés. Recommandations de projection et puis le deuxième épisode d'un podcast sur la parentalité. Bienvenue dans l'Arène. Chaque jour, l'émission d'information locale débute avec une info du jour retenue pour vous dans l'actualité locale. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 agriculteurs qui sont entrés dans Rennes avec leurs tracteurs dans le cadre de la mobilisation nationale de la profession agricole. Les barrages routiers, ils ont été levés dans le département ce matin, mais des blocages se poursuivent devant des plateformes logistiques du côté du Reux et de Bain-de-Bretagne. En parallèle, des tracteurs ont défilé à Saint-Malo et à Rennes, menés par les JA, les jeunes agriculteurs, et puis la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Ici, une délégation a été reçue par la maire de Rennes, Nathalie Appéré, sur le temps du midi. Nathalie Appéré, qui est également présidente de Rennes Métropole, puisque c'était la cible de critiques des manifestants présents. Dans le même temps, des annonces arrivaient du côté du Premier ministre Gabriel Attal, notamment avec l'annonce de la mise à l'arrêt du plan Ecophyto qui visait jusqu'à présent à réduire l'usage des pesticides. Une double mobilisation donc aujourd'hui, puisqu'on avait aussi le corps enseignant qui était en grève à Rennes comme sur le reste du territoire national. 2000 à 3000 personnes ont défilé dans Rennes, remontée contre la politique menée par le ministère de l'Éducation nationale et sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Et on prend la direction du pôle associatif du Polyblône à Rennes, où la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne donnait rendez-vous aux professionnels de ce secteur mercredi 31 janvier. Objectif, alerter les pouvoirs publics sur les difficultés financières de ces structures, car malgré les revalorisations salariales récentes pour les plus bas salaires, le modèle économique des centres sociaux montre des failles et fait peser des menaces sur les équipes et leurs activités. Reportage.
Nous serons retrouvés par Adam River, percussionniste, et si on a tous collectivement envie de se réchauffer puis envoyer une image collective des centres sociaux, on sera invité à danser tous ensemble, voilà, grâce à Adam.
Si nous sommes rassemblés aujourd'hui et d'une manière nationale, puisque tous les centres sociaux de France et de Navarre sont aujourd'hui sur l'espace public pour faire comprendre que la situation financière des centres sociaux est très délicate, que tous les centres sociaux sont en péril, alors qu'ils ont une action importante en termes d'utilité sociale pour les habitants des quartiers, notamment les quartiers politiques de la ville. Frédéric Le Guenec, vice-présidente de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne, en charge de l'Ille-et-Vilaine. Donc aujourd'hui, l'interpellation au niveau de l'État, c'est de dire attention, on est en difficulté, on est en fragilité, et si demain le centre social ferme, c'est toutes ces familles qui seront sur l'espace public avec tout ce que cela peut générer comme difficulté pour les uns comme pour les autres.
Non seulement on est sur les quartiers, mais on est aussi dans les zones rurales et aussi dans les centres-villes. Yves Matelier, je suis le président de l'association Confluence, le centre social de Redon. Donc c'est la cohésion sociale, la mixité sociale qui est aussi importante et qui permet aussi aux personnes en difficulté de se sentir plus épaulées. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on tient à signaler.
Vous pouvez préciser les équipes qu'on trouve dans votre structure et puis les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés?
Donc au niveau des équipes, nous on a une équipe qui s'occupe de la petite enfance, un secteur famille, un secteur aussi senior, des ateliers, une responsable d'atelier, une ludothèque et plein d'actions qui sont menées au centre.
Donc Lionel Agoute, directeur du centre social Confluence de Redon.
On a pu constater effectivement qu'au regard des inquiétudes qu'on peut avoir, bah, c'est tout l'objectif des centres sociaux qui est le lien social, qui nous permet, nous, de fonctionner, les attentes qu'on a par rapport aux habitants qui nous font des constats tous les jours du bien-être que ça leur apporte, du lien social, de la rupture, de l'isolement que ça peut leur apporter, puisqu'effectivement, on sait qu'on est dans une situation où les jeunes sont de plus en plus seuls. Le taux d'isolement des jeunes, quand on regarde les chiffres, a augmenté. Les personnes âgées aussi se retrouvent de plus en plus isolées. Et grâce au centre, que ce soit celui de Redon ou les autres, eh ben, on arrive à effectivement rompre cet isolement et des personnes se sentent mieux. Et c'est au moins l'objectif, des fois, d'une ou deux sorties dans la semaine, c'est ce qui nous témoigne. Et ça, c'est important aussi. Alors c'est vrai que économiquement il faut trouver des solutions et c'est pour ça qu'on alerte effectivement les pouvoirs publics aujourd'hui parce qu'on nous demande de faire beaucoup plus avec moins de moyens et là au bout d'un moment c'est pas possible.
Moi j'ai deux autres points de vue. François, je suis le directeur du centre social de Fougères en Ille-et-Vilaine, c'est une association. C'est-à-dire que beaucoup des centres sociaux en France et fortement en Ille-et-Vilaine sont des associations, donc c'est du droit privé. Donc on a l'impression que nos structures, les subventions, elles arriveront, globalement il y aura des fonds publics qui viendront, on se rend compte que c'est pas la réalité. Nos centres sociaux sont depuis 2008-2010 conditionnés à faire de la recherche de financement, des appels à projets. Permanent. On a multiplié par à peu près 10 nos sources de financement dans les centres sociaux, ce qui a détourné une partie de nos métiers pour notamment les directions, mais aussi les coordinations. C'est-à-dire qu'on est obligé de rendre des comptes pour énormément de petits financeurs. Et donc, en fait, au lieu d'être sur le terrain avec les habitants, les associations, les élus et les collectivités pour monter des projets de développement social, pour répondre au mieux aux attentes des habitants, parce qu'ils s'expriment, les habitants, dans nos structures, on passe de plus en plus de temps sur des plateformes numériques à rendre des comptes pour des petits bouts de financement fragiles qui ne sont pas renouvelés d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a des centres sociaux, 30 à 40% de leur financement d'animation, ou 100%, là je parle pour mon centre, 100% des financements d'animation sont des appels à projets. Donc en fait, on détourne les fonctions de travailleurs sociaux, on détourne les fonctions de coordinateurs d'animation sociale et de direction à rendre des comptes pour l'argent qu'on arrive encore à avoir. Et puis, on voit bien que cet argent qu'on arrive encore à avoir, il est en train de diminuer. Et l'écart n'est plus possible entre l'attente et ce que l'on fait, en fait, pour répondre à cette attente.
Est-ce qu'il y a des accompagnements que vous meniez, que vous ne pouvez plus mener ? Il y a des missions qui ne sont plus assurées, hein ?
Chez nous, pas encore, mais nous évoquons déjà de fermer une demi-journée par semaine parce que on n'a plus assez de moyens à l'accueil. Il y a des choses qui vont s'arrêter, elles pourront paraître invisibles et pourtant elles sont très importantes. Il y a quelque chose qui est très important dans les centres sociaux, c'est la notion d'aller vers. C'est-à-dire que nous déployons des moyens et des compétences au pied des immeubles, dans les villages, sur les communes rurales. On va au plus près des besoins des habitants. On se déplace avec des véhicules, des moyens et des compétences pour faire de l'animation gratuite en pied d'immeuble. On se déplace, on fait de l'accompagnement scolaire en pied d'immeuble. Bien sûr que ces choses-là sont en grand danger parce que, bien évidemment, on nous demande d'être économiquement rentable, économiquement viable. Donc ça veut dire que l'économie est plus importante de la manière dont on va être traité que de ce que nous produisons. Et l'économie, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui n'est pas rentable dans nos activités, on va les arrêter. Donc oui, il y a des activités qui ne se renouvellent pas d'une année sur l'autre parce qu'on n'a pas obtenu la subvention. Un exemple tout simple, une année, la direction régionale des affaires culturelles nous fait des financements pour avoir des spectacles en pied d'immeuble. On a 800, 900, 1000 personnes qui viennent à des spectacles gratuits en pied d'immeuble. L'année d'après, la subvention n'existe pas. Et donc c'est bien l'égalité d'accès à la culture qui tout de suite est amputée.
Donc, bonjour, donc Marc Perrière, je suis le directeur du centre social intercommunal Louvigné du Désert. Donc nous, notre centre social, justement, comme le disait François, on intervient en milieu rural. On a comme territoire une dizaine de petites communes, puisque la plus grande commune, c'est 3200 habitants, pas plus. Et après, on s'étend sur une surface aussi, un territoire qui est quand même très vaste, avec toutes les problématiques qui sont connues en milieu rural, de mobilité des personnes, et puis l'accès aux droits, l'accès aux services. Et ce que je voulais juste dire aussi, c'est qu'il y a autant de centres sociaux qu'il y a de projets et qu'il y a d'actions qui sont développées. On développe des actions qui sont de la dentelle, c'est-à-dire qu'on fait en fonction de nos habitants, des besoins des habitants, par rapport à un diagnostic, par rapport à des questions et par rapport à des remontées que nous font la population. Et ce n'est pas nous qui descendons nos activités, qui décidons de ce qu'on va faire. Et nous, en territoire rural, eh ben, on a nos spécificités. Et souvent, on est, malheureusement, ou en tout cas, c'est comme ça, on est seul sur des territoires. Et donc, si demain, il n'y a plus de centre social, ça va être très compliqué pour la population. Il n'y a qu'un seul espace jeune sur notre territoire qui existe, de possibilités, de projets jeunesse, d'accueil jeune, de travailler avec les 11-17 ans. Donc ça, il faut absolument le maintenir. OK. Il y a des actions avec les seniors. On est sur des territoires ruraux avec des populations qui sont, soyons clairs, très vieillissantes. Et donc, il faut qu'on puisse maintenir ces actions-là. Mais là, encore une fois, d'une année sur l'autre, on ne sait pas si les projets qu'on va faire pour pouvoir faire des sorties avec nos aînés, pour pouvoir faire des cafés seniors, des choses comme ça, si les actions seront renouvelées d'une année sur l'autre.
Tout ça, en fait, nous permet de révéler des problématiques qu'ont les habitants, et notamment celle de l'accès aux droits et celle de l'accès aux droits numériques. C'est-à-dire que tous nos accès aux droits sont de plus en plus numérisés, avec une vraie fracture autour de ça. Donc les centres sociaux, tous en Ille-et-Vilaine et tous en Bretagne, ont un travail autour de ça. Mais les moyens qui sont donnés pour accompagner les publics, alors si c'est pour entraîner les habitants vers les espaces numériques à la préfecture, ben, en fait, ça recrée des distances, ça recrée des espaces où il va falloir régénérer des confiances, parce que les habitants, ils ont besoin d'être aidés pour leurs accès aux droits, on a des informations importantes sur leur vie privée, donc ils se font facilement chez nous, puisqu'il y a des confiances qui sont tissées d'année en année. Bien évidemment, quand il faut qu'on renouvelle les ordinateurs, on ne trouve pas les financements. Donc ça va très vite, ça devient très très vite compliqué.
Autre sujet évoqué par François du centre social de Fougères, la mise en danger des parcours d'habitants qui entrent dans la structure pour un intérêt particulier et se mettent à développer un engagement citoyen.
Les centres sociaux sont des structures qui accueillent les bonnes volontés, qui fédèrent les compétences des habitants pour répondre à des besoins. Et donc c'est un espace où les habitants peuvent venir s'engager de manière simple. Souvent on vient passer la porte d'un centre social pour dire « Ah, vous avez un atelier cuisine du monde le vendredi midi, j'aimerais bien m'y inscrire pour apprendre à faire de la cuisine exotique ». Et puis en fait, cette personne-là se rend compte que elle peut faire de l'accompagnement scolaire pour des gamins en grande difficulté ou d'accompagner des sorties de personnes vieillissantes avec un premier handicap. Et puis en fait, à un moment donné, il se retrouve au conseil d'administration d'un centre social. Tous ces parcours-là, dans les centres sociaux, ils sont simplifiés. Et ben voilà, ils sont en danger, ces parcours-là.
Nous sommes l'espoir nouveau. Nous réveillerons l'économie de sa fille et d'apathie.
Donc, Muriel Delany, déléguée fédérale à la Fédération des centres sociaux de Bretagne, en charge de l'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, la fédération, en fait, c'est un réseau de 83 centres sociaux sur la région Bretagne, donc centres sociaux et aussi socio-culturels, donc qui adhèrent à la fédération. Alors, un centre social, c'est effectivement un acteur qui est un acteur de proximité, comme on l'a vu, très proche des habitants. Dans la plupart du cas, ce sont aussi des structures qui sont créées par des collectifs d'habitants pour répondre en fait à leurs propres besoins. Et aujourd'hui, la fragilité économique, donc l'équilibre financier qui est difficile à avoir pour diverses raisons, met en péril en fait cet acteur. Pour des données chiffrées aussi, on a un déficit qui peut être aujourd'hui de 30 000 euros en moyenne pour un centre social en 2023. En 2024, on a aussi environ entre 30 000 et 60 000 euros de déficit prévisionnel en moyenne vécu dans les centres sociaux de la région. Et en 2025, nous n'avons pas de lisibilité en fait. Et on peut effectivement arrêter des activités, voire aussi peut-être avoir des fermetures de centres sociaux.
Donc Lionel de Confluence, on a effectivement des difficultés économiques, mais qui sont accentuées aussi des fois par certaines administrations. Ou par exemple pour Redon, on attend toujours l'acompte 2023 d'une agglomération. On est début 2024. Donc heureusement qu'on a un peu de trésorerie, mais ça c'est juste inadmissible et inattendable. Mmh. Puisque pour les centres, on nous demande effectivement, association 1901, d'équilibrer, mais comment une administration peut ne pas respecter ses engagements? Je pense que n'importe quel habitant qui ne paye pas ses poubelles va se retrouver tout de suite avec une majoration. Donc ça nous met aussi en difficulté. Et puis après, quand on discute aussi avec des élus, pour les appels à projets, il faut qu'ils rédigent leur appel à projet, il faut qu'ils déposent l'appel à projet, il faut qu'ils analysent les réponses des appels à projet. Ensuite, il faut qu'ils envoient les bilans, et ensuite, il faut qu'ils lisent les bilans. Mais quand on discute avec eux, les bilans, ils ne les lisent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens humains non plus. Donc à un moment donné, on nous met en place un système, effectivement, il faut assurer des garanties, je comprends, mais ils ne vont pas jusqu'au bout du système, parce que même eux, ils ne lisent pas les bilans, quasiment. Si on pouvait avoir effectivement à éviter de faire des appels à projets où on va demander 2000 euros, on va avoir que 700 euros, donc est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on adapte, et puis derrière on a des réponses, nous on a déjà engagé presque l'action, donc on a des fois aussi des temporalités qui sont totalement à côté de la réalité.
Ouais, aujourd'hui, un centre il peut gérer en moyenne 60 conventions financières, donc ce qui est énorme en termes de gestion. Et puis après, il y a des questions aussi, des problématiques de trésorerie, voilà, qui peuvent être rencontrées, puisque quand on répond à un appel à projet, que ce soit pour 2000 euros ou 10 000 euros, on peut avoir 30% de la somme dans les 3 à 6 mois après avoir l'accord de financement. Et après, on peut avoir le solde, mais peut-être un an après, voire plus en fait. Et ça, ça peut aussi mettre en péril la structure. Et puis, dans le budget d'un centre social, on va avoir entre 60 et 80% des charges qui sont des charges de personnel, puisqu'on est sur des missions sociales d'animation, donc il y a aussi ces inquiétudes là qui peuvent se poser également.
Oui, tout à fait.
On comprend qu'il y a une demande de révision un peu du modèle économique des centres sociaux, aussi la demande d'un fonds exceptionnel pour vous soutenir. Comment est-ce que vous décririez le dialogue initié avec vos financeurs publics, aussi divers qu'ils soient?
Localement, on a une grande part avec les mairies et puis la communauté de communes. Bon, localement, on a une entente, hein, mais eux aussi sont pris par des contraintes de plus en plus fortes. Hein. Le maire nous disait que le prix de l'électricité avait doublé par rapport à la commune. Donc forcément, il y a des arbitrages qu'ils font et nous, ben, on va passer en dernier, quoi.
Aujourd'hui, en fait, dans le cadre de la mobilisation, on appelle à cette co-responsabilité de dire que les centres sociaux sont des acteurs majeurs de territoire pour le lien social, en appui aux politiques publiques. Au niveau départemental et régional, on a des liens avec la CAF, le département, l'État, le conseil régional également. Et au niveau national, donc on a une fédération nationale qui, elle aussi, interpelle le ministère des Solidarités et puis également la CNAF, donc la Caisse nationale d'allocations familiales. Donc on espère en tout cas que cette mobilisation va permettre d'avoir des réponses concrètes et pourquoi pas un fonds spécifique en fait pour les structures qui peuvent être en difficulté dès 2023 et 2024 et 2025.
Donc au niveau du programme, l'idée c'est de pouvoir diffuser les arguments, l'argumentaire auprès du public qui passe, de servir des petits cafés. Vous avez aussi sous le barnum des sardines que vous pouvez mettre en chapeau et les finaliser.
Les sardines, c'est un symbole breton, puisque en fait, nous avions eu un congrès national de la Fédération des centres sociaux à Lille en mai dernier, et chaque région devait apporter un symbole. L'idée, c'est de sortir de l'eau la tête haute, en tout cas de pas couler. Et on voulait aussi mobiliser et avoir comme symbole les bouées. Bon, on n'a pas pu aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de dire on est sous l'eau aujourd'hui, on a besoin du soutien des acteurs, des habitants, des partenaires financiers aussi, de tous les partenaires aussi avec qui on travaille au quotidien, associatifs qui travaillent dans le social ou d'autres secteurs.
Les sardines se déplacent en banc et nous, on agit collectivement.
Shades of blue. You've been swimming.
Dragon et Las Robertas avec le morceau Under the Sea sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et à retrouver sur un album Chasing Dreams. C'est sorti en autoproduction le 1er décembre dernier et c'est le 7e disque pour ce musicien israélien installé à Paris depuis 2009 qui arrive à sortir 2 albums par an. Bravo. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0. Vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr et dans cette émission, on essaye de vous tendre notre micro si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif, voire au sein d'une institution. Tant que c'est dans le champ de l'information locale, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview en studio, un reportage sur le terrain ou bien une recommandation du jour. Mais on continue là avec une interview. Marion Boé et Mélanie Leverger, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je vous présente Marion Boé, vous êtes la réalisatrice du film dont on va parler, Un pays de papier, qui est produit par les films de la pluie et qui sera à voir au ciné TNB samedi 3 février à 19h. Un film dont vous êtes le personnage principal, Mélanie Leverger, vous êtes avocate à Rennes. D'abord, une question pour Marion. Le point de départ à ce nouveau film, c'est quoi un intérêt pour la question de ces mineurs non accompagnés qu'on va rencontrer dans le film?
Oui, exactement. Je voulais parler des mineurs non accompagnés, de comment ils étaient pris en charge en France. Et puis, j'avais eu une première idée de faire ça dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance où ils sont pris en charge. Puis finalement, le département avait refusé parce que c'était trop politique. Et en faisant mon enquête et en parlant avec des éducateurs et des éducatrices, on m'a parlé d'une avocate à Rennes. Voilà, du coup, j'ai cherché, j'ai pris rendez-vous avec Mélanie. Et au cours de l'entretien avec elle, j'ai vu tout son engagement et je me suis dit que c'était vraiment intéressant à travers elle de comprendre le parcours de ces jeunes et les défis auxquels ils font face.
C'est votre deuxième film que vous signez là et qui va donc être projeté en avant-première ce week-end. Vous avez tout de suite accepté la proposition, Mélanie Leverger, d'être suivie par une caméra?
Non.
Il a fallu vous convaincre?
Oui, ça a été un petit peu long, je crois. Mais c'est Marion qui peut en parler.
Ça n'a pas été si long, mais oui. Puis tout au long du tournage, il a fallu quand même réinstaller la confiance de temps en temps parce que c'était pas forcément facile pour Mélanie d'être en première ligne comme ça.
Et pourquoi? Parce que, oui, c'est de voir votre visage, d'être vraiment le personnage principal qui pouvait être...
Oui, j'étais convaincue par son film, parce que le thème n'est pas très, très abordé et que c'est important que le public connaisse cette situation plutôt que d'écouter les médias habituels sur la question des MNA, des mineurs non accompagnés, qu'on prend pour des délinquants, quoi. Moi, c'est vraiment une autre expérience que j'ai. Donc, Marion souhaitait apporter ce regard-là du point de vue des jeunes, quoi, qui sont souvent en détresse. Et donc moi j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs personnages principaux. J'ai pas du tout envie de là me mettre en avant, regarder comme je fais des choses bien. Enfin, c'est pas du tout le but. Donc c'est une sorte de comment dire, c'était dur à accepter. J'ai
un sacrifice.
Du mal même à assumer en fait, hein. J'avoue. Ça va, je dors mieux là maintenant, mais j'ai eu du mal à assumer. Maintenant, comme c'est un thème et un combat que je mène depuis très très longtemps, je suis quand même ravie et je remercie Marion d'avoir aujourd'hui la possibilité d'en parler librement finalement d'eux. Donc j'ai accepté pour ça en fait, hein, pour continuer d'être leur avocate à travers le film et sa sortie, quoi. Voilà.
Autant les associations de soutien aux personnes exilées sont bien identifiées sur la région rennaise, je pense à la CIMAD qu'on reçoit souvent ici, aussi à des associations comme Utopia 56 ou encore le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Autant c'est peut-être moins identifié qu'il y a des avocats spécialisés sur ces questions-là.
Oui, et puis il n'y en a pas beaucoup en fait. Moi j'ai commencé à m'intéresser, j'avais déjà le diplôme d'avocate, mais je travaillais pour une organisation de défense des droits humains à Paris. Et j'ai découvert leur situation il y a 20 ans, dans les rues de Paris et les rues de Calais. Et donc quand je suis venue m'installer à Rennes en tant qu'avocate en 2005... j'ai eu une démarche active en fait pour aller vers ces jeunes-là. Voilà. Parce que j'avais noté que si on ne va pas vers eux, effectivement, ils restent dans la rue, ils cherchent à aller dans un autre pays, ils continuent leur fuite incessante, en fait, depuis leur pays d'origine. Et c'est justement quand ils ne sont pas pris en charge, à tout point de vue, qu'il ne reste plus que la rue. Et la rue, c'est tous les dangers. C'est aussi les dangers d'une exploitation sexuelle et de toutes sortes d'entrées dans la délinquance, quoi. Donc, moi, j'essaye de les prendre un par un. Et puis mais ils ne sont pas compliqués à convaincre. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Aujourd'hui, je ne vais pas les chercher. Ils viennent me voir. Hein, ils viennent tout simplement me voir en me disant on a besoin d'être protégés, quoi.
Qu'est-ce qui peut les empêcher ou les freiner dans le fait de faire la démarche pour aller voir un avocat? C'est le rapport à l'institution aussi.
L'ignorance, déjà. L'ignorance. Ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent le faire. On a mis du temps à obtenir que l'aide sociale à l'enfance leur notifie leur droit de contester la décision par laquelle l'aide sociale à l'enfance les a considérés comme majeurs. Donc il y a d'abord l'ignorance, il y a aussi le désespoir, c'est-à-dire que certains sont vraiment traumatisés, hein. Ils ont souvent subi des violences par les adultes. Alors si, en disant, voilà, moi je suis jeune, je fais personne en France, si on leur dit, mais t'es un menteur, après ça peut être compliqué de retrouver la confiance avec l'adulte. Ils vont peut-être se réfugier ailleurs que chez... Et il y a la solidarité entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le bouche à oreille, il y a entre migrants et entre jeunes, voilà. Et aujourd'hui, il y a Utopia 56 qui est bien installée. C'est la seule antenne mineure d'accompagnés en France. Ils font un travail formidable, ils font des maraudes, etc. Donc eux, ils vont les repérer dans la rue. Voilà. Donc aujourd'hui, à Rennes... c'est moins compliqué de m'identifier, moi, mais je ne suis pas la seule. Hein. On est plusieurs avocats à Rennes à les aider, à les soutenir. Voilà, mais ce n'est pas non plus beaucoup d'avocats, ça c'est clair.
Vous êtes avocate au barreau de Rennes depuis 2005, après des études déjà dans le champ de la protection des droits humains. Vous êtes deux dans le cabinet où vous êtes ici à Rennes. Très concrètement, quelles sont les situations, au-delà du public des mineurs non accompagnés, les situations des personnes exilées qui poussent la porte de votre cabinet? Beaucoup question de demande d'asile, non?
Alors, il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Il y a aussi des gens qui sont en demande de titre de séjour, de régularisation, qui sont en France depuis longtemps, qui travaillent, qui sont bien insérés et qui cherchent à régulariser leur situation. Mais oui, la demande d'asile, ça fait partie vraiment du cœur de mon travail, quoi. Donc le public que je reçois, c'est la plupart du temps des personnes très très marquées par leur vie au pays d'origine, les persécutions subies, de tous ordres, hein. Ça peut être familial, ça peut être social, ça peut être politique, voilà. Et de plus en plus, et surtout, je dirais, les mineurs, ils sont doublement traumatisés par leur exil, par le voyage, hein, qui est de plus en plus dangereux. Beaucoup meurent dans le désert. Beaucoup des jeunes que je reçois ont perdu, je sais pas, un père, une mère.
Des amis, des proches.
Une sœur, des amis, des proches, un amoureux, une amoureuse. Donc de plus en plus, ils sont vraiment dans un état de choc et de choc. Culturel, interculturel, en fait, d'acculturation, quand ils sont arrivés, quand ils arrivent ici.
J'allais vous demander si c'était un public avec des spécificités. Il y a évidemment celui du traumatisme, oui, de l'exil qui est porté. On imagine aussi souvent un public en situation de précarité, avec une possible barrière de la langue. Tout ça, ça vous a amené à vous former pour les accueillir au mieux.
Oui. C'est les mineurs, hein, non accompagnés, qui m'ont poussé à me former, effectivement, en psychologie interculturelle. J'ai fait une formation à Paris 8 parce que j'avais besoin d'outils théoriques, intellectuels, pour trouver une façon d'aller vers eux, de leur parler un langage qu'ils comprennent. Je ne pouvais pas attendre qu'ils viennent vers moi parce qu'ils sont trop jeunes, trop pris dans leur propre culture, sans recul sur leur propre culture, pas toujours en tous les cas. Donc il a fallu que je me forme, oui, pour pouvoir entrer en confiance avec eux et qu'ils aient envie de me confier leur histoire. Parce qu'il peut leur arriver de ne pas dire la vérité sur leur histoire tellement elle est honteuse ou tellement ils en ont peur. Ou parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'adulte qui est en face d'eux pour les écouter. Donc c'est toute une démarche effectivement qu'il faut avoir conscience de faire pour les inciter à se confier en confiance. On ne peut pas être un bon avocat pour moi si on n'a pas réussi à obtenir la confiance de la personne qu'on défend. Donc voilà, ce moment est important. Donc je prends le temps d'instaurer une confiance avant d'engager des questions qui sont souvent douloureuses. sur leur parcours.
Ces mineurs non accompagnés, ils sont donc au cœur de ce film Un pays de papier à découvrir ce week-end au ciné TNB, donc le samedi 3 février à 19h. Les mineurs non accompagnés, alors en Ille-et-Vilaine, ils seraient 900. Il y a une augmentation des chiffres officiels, en tout cas du nombre de mineurs non accompagnés, souvent réduits, vous l'avez évoqué, à des faits de délinquance sur le territoire rennais. Ça a notamment été le cas en 2021, particulièrement sur cette année pour la ville de Rennes. On peut parler de la procédure. Ils viennent donc vous voir quand la minorité leur a été refusée. Quelle est la nature de cette procédure? Combien de temps ça dure?
C'est très très long. C'est ça le problème, même si le juge des enfants actuellement fait des efforts pour réduire les délais. Bon, de toute façon, vous connaissez ici le sinistre, hein, dans lequel la justice se trouve depuis plusieurs années, même s'il y a des efforts qui sont faits là. Donc, il n'y a pas assez de monde au tribunal, il y a assez de monde nulle part. Même au département, il n'y a pas assez de monde, pas assez de moyens. Donc, moi, je dois saisir le juge des enfants, mais pour le saisir, il faut que je montre patte blanche, c'est-à-dire que les jeunes soient en mesure de prouver qui ils sont. Donc c'est là que le monde associatif et solidaire intervient. Toute cette période, il ne faut pas les laisser à la rue. Donc il faut leur trouver un hébergement. Utopia 56 fait ce travail-là, mais pas seulement Utopia 56, d'autres associations le font. Et puis même des privés, des personnes qui sont touchées par un gamin qu'ils rencontrent à la gare en train de pleurer, qui est tout seul, voilà, un soir. Donc il y a vraiment de la solidarité. Moi je ne tiendrais pas le coup sans cette solidarité, à vrai dire. Mmh. Et solidarité aussi entre jeunes, entre ressortissants des mêmes communautés, pour essayer de retrouver le contact de la maman, d'un papa, qui sont injoignables. Hein. Il n'y a pas toujours les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours même la 4G, l'électricité, dans les villes ou les villages d'où ils viennent. Donc il faut retrouver un contact sur place qui soit en mesure de faire établir en toute confiance, de façon fiable, leur état civil. Et après, faire acheminer. Donc c'est un vrai parcours du combattant, ça peut les décourager. Donc il faut sans cesse, avec les associations, les gens qui les entourent, leur redonner un peu d'espoir. Enfin voilà, c'est des mois d'attente qui sont très difficiles. Ils sont dans une grande précarité, ils sont jeunes. Ils sont souvent avec, malgré des traumatismes, une capacité incroyable de renaissance, ces jeunes-là, parce que je pense que les plus fragiles ne tiennent pas le coup dans l'exil. Hein. Ils meurent sur le parcours. Quoi.
Un mot sur les injustices subies. Quand il n'y a pas ces documents pour attester de la minorité de la personne exilée, on a encore recours à des tests osseux, y compris sur notre territoire.
Alors
aujourd'hui.
Alors oui, même quand on a des actes d'état civil, hein, le juge peut ordonner, à Rennes c'est le cas, hein, des examens osseux. Ces examens aujourd'hui sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire de l'hôpital, l'Institut médico-légal. Donc là, il y a une confiance professionnelle déontologique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc par principe, de toute façon, tous les comités d'éthique, académies de médecine, etc., critiquent ces tests osseux sur leur manque de fiabilité. Les tables de référence servant aux tests osseux aujourd'hui sont des tables qui ont été faites, créées sur une population caucasienne, donc blanche, dans les années 30 et 50. On les compare à des jeunes guinéens d'aujourd'hui qui, à 16 ans, font 1m90. Donc, c'est pas juste. Voilà. Le système en lui-même n'est pas sérieux, n'est pas fiable. Donc, les médecins qui acceptent de faire cela disent toujours à quel point ça n'est pas fiable, à quel point il faut y mettre des réserves, à quel point on ne peut pas aujourd'hui scientifiquement déterminer l'âge de quelqu'un. Mmh. Voilà. Il peut y avoir une marge d'erreur parfois de 5 ans. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, des très grosses marges d'erreur. Donc le juge le sait. Et ce n'est pas un élément déterminant non plus pour le juge. Mmh. Mais ça existe encore. Dans d'autres pays de l'Union européenne, ça a été parfois aboli, hein, parce que ça n'est pas assez fiable.
Mais la décision prise a un impact déterminant sur l'avenir de ce jeune que vous accompagnez. Marion Boé, réalisatrice du film Un pays de papier, comment est-ce que vous avez pensé votre film pour raconter ce combat, avec peut-être la contrainte de ne pas montrer les visages des personnes accompagnées par Mélanie Levergé?
Oui, c'est ça, parce que comme c'est des mineurs, ben, j'avais pas d'autorisation parentale possible. Donc l'idée, c'était de les filmer de dos, dans les entretiens que Mélanie faisait dans son bureau. Donc, et puis ben, je leur demandais toujours l'autorisation avant, s'ils avaient des questions, s'ils avaient envie finalement de pas être filmés. Voilà, je respectais tout à fait ça. Et puis après, je me mettais, oui, un peu au fond du bureau, pour être assez discrète. Et du coup, j'étais seule dans ces moments-là. Et puis après, il y avait quelques autres tournages en dehors du cabinet.
Des temps plus collectifs aussi, parfois, entre collègues, je crois.
Des temps, ouais, avec les collègues, avec Utopia 56 aussi, qui est important dans le soutien à ces jeunes exilés. Et puis, parce qu'ils sont très présents aussi pour les entretiens des jeunes au cabinet. Et voilà, en formation avec eux. Et puis après, dans d'autres aspects de la vie plus personnelle de Mélanie.
En tant qu'avocate, Mélanie Leverger, vous dites ne pas réparer les injustices, mais essayer de les réparer. On arrive à la question de l'hébergement, puisque le manque de moyens pour accompagner ces mineurs non accompagnés, elle est aussi visible dans le champ de l'hébergement. Il y a un manque de places criant. Ici, dans le département, de nouveaux sites vont être ouverts par le département donc pour accompagner ces jeunes, notamment à Saint-Jacques-de-la-Lande cette année en 2024. Vous avez vous-même participé à l'effort en accueillant parfois des mineurs non accompagnés à votre domicile, comme des citoyens le font, quoi.
Oui, 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 mais ça a été long de s'affranchir de ma fonction d'avocate. Je ne l'ai pas fait tout de suite. À vrai dire, je le faisais avant d'exercer la profession, déjà. Mais une fois que je suis rentrée et j'étais inscrite au barreau, c'était plus compliqué. Mais voilà, à un moment, je me suis trouvée comme n'ayant pas le choix. C'était des jeunes qui étaient en danger, vraiment trop en danger, trop sur un point de bascule, presque un précipice. Donc j'ai senti pour certains que si là, ils ne trouvaient pas quelqu'un qui leur tendait la main plus concrètement que « je te donne un rendez-vous la semaine prochaine à mon cabinet pour voir si tu as des actes d'état civil », voilà, à un moment donné, c'est la non-assistance à enfants en danger, en fait. Donc, j'ai toujours pris soin de prévenir mon bâtonnier pour me préserver. Mais oui, l'accueil s'est fait par notamment un jeune, Charlie. J'ai commencé avec Charlie, qui est à Perpignan actuellement. Et les expériences ont été si riches pour mes enfants, pour ma famille, même mes parents, mes sœurs et frères, enfin tout le monde, que ça a donné envie à d'autres. Des amis se sont mis à héberger, voilà. Ce sont des expériences d'échanges personnels, interculturels, qui sont très riches. Voilà, on peut avoir peur au début. C'est normal d'amener un étranger chez soi, surtout quand on est des enfants, etc. C'est pas une décision anodine, mais je la regrette absolument pas. Et du coup, après, j'en ai hébergé sur des périodes plus ou moins longues. Ça a pu être 3 ans pour Charlie, et ça a pu être 8 mois pour d'autres, et puis 2 mois pour d'autres. Enfin voilà, en fonction des besoins et en fonction aussi de la place que j'ai chez moi, parce que c'est pas toujours simple.
Et si on revient à votre casquette d'avocate, dans quelle proportion est-ce que vos clients, on le redit, qui sont en partie des mineurs non accompagnés, voient leur démarche aboutir ?
Ça dépend tout à fait du magistrat chargé des affaires. Donc pendant le tournage du film, les 3 ans de tournage là, à peu près, on était dans une période très difficile au tribunal judiciaire de Rennes. Le juge des enfants était très très dur. On n'y arrivait pas. Il fallait aller en appel pour obtenir gain de cause. Donc c'était des périodes encore plus longues pour les jeunes qui se désespéraient parce que pas scolarisés pendant ce temps-là. Ceux qui sont bons en foot ou en d'autres sports, pas le droit d'avoir de licence. Enfin, vraiment, à part ce que leur proposent les champs libres, les cours de français, des clubs amateurs, c'est compliqué de les occuper en journée, quoi. Et donc, depuis un an, le juge a changé et on a une juge qui fait du droit. Donc nos requêtes aboutissent beaucoup plus. Donc voilà, ça nous fait beaucoup de bien à tous. Voilà.
Toutes ces questions, elles sont à découvrir plus longuement dans un film, Un pays de papier, c'est à voir au Ciné TNB samedi 3 février à 19h. On vous y retrouvera, Marion Boé et Mélanie Leverger, avec un temps d'échange qui est prévu à l'issue du film avec le public. Le tarif de la séance est de 6€. Pour plus d'infos, il y a le site t-n-b.fr. Merci beaucoup.
Merci. Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, 'cause that's the only way. We gon' fight.
Sur Canal B, c'était le choix musical de Mélanie Leverger, à retrouver sur le disque Survival qui est sorti à la fin des années 70, signé évidemment du mythique musicien jamaïcain Bob Marley. Vous écoutez La Reine sur Canal B. Pour la recommandation du jour, on annonce rapidement une soirée projection débat de l'association Le Mag Cinéma. N'importe qui, c'est le nom du film documentaire de François Bégodeau qui sera projeté. Rendez-vous pour y assister samedi 3 février à 19h à la MJC Bréquigny de Rennes. À la question « Est-ce que vous vous sentez représenté ?», le réalisateur, qui est aussi évidemment écrivain, a essuyé beaucoup de refus. Il a donc laissé les interviewés filmer pendant une minute ce qu'il souhaitait, tout en commentant ce que l'on voit à l'image. Des hommes et des femmes politiques de tous bords se sont prêtés au jeu, tout comme de simples citoyens, des journalistes, des gens du voyage ou encore des jeunes. Pour plus d'infos sur cette projection, il y a toujours le site de l'association lemagcinema.fr. Et avant de se quitter, je vous propose d'écouter un dernier contenu. C'est le deuxième épisode d'un podcast en trois volets, réalisé en partenariat avec la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine. Et ça fait suite à une conférence qui a été organisée il y a quelques semaines en compagnie de Claude Martin. Faites comme si, pas comme ça. L'idée d'éduquer les parents à exercer leur propre rôle n'est pas nouvelle. Mais avec l'émergence de la notion de parentalité au XXe siècle, un nouveau souffle a été donné à cet enjeu politique et social. Alors, comment se repérer face à des injonctions et des politiques parfois contradictoires ? La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Claude Martin pour un podcast en trois parties. Il est sociologue, spécialiste des politiques de soutien à la parentalité. Épisode 2, un soutien aux parents qui se formalise.
La deuxième période, elle est, on peut presque la dater, c'est évidemment le moment où le terme de parentalité rentre dans le discours public. Il existe depuis le courant des années 70 et d'ailleurs c'est un peu une traduction ou une tentative de traduction de ce qui existe en Angleterre et en langue anglaise où on a au fond inventé aussi un néologisme qui s'intitule d'ailleurs « parenting ». Au fond, on conjugue un substantif. C'est une façon de dire que quand on parle de parenting, on ne se préoccupe pas tant de qui est le parent, mais de ce qu'il fait. Le parenting, c'est une façon d'agir. Ça veut dire qu'on dépasse d'ailleurs les questions de « le parent est-il le géniteur ou celui qui s'occupe de l'enfant ?» On est sur vraiment l'action et le travail parental. Et on est aussi, incidemment, aussi sur des questions de compétences parentales, et pourquoi pas de métier de parent. Donc cette notion de parentalité, elle s'inscrit dans le débat public, elle est portée par, bien sûr, des experts, du côté plutôt de la psychologie, et en particulier de la psychologie de l'enfant, mais elle est aussi relayée par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, ce néologisme va entrer dans le dictionnaire, et nous avons aujourd'hui un terme bien connu de la plupart de nos contemporains. La parentalité, on sait à peu près ce que ça veut dire. Et en même temps qu'on fait usage de cette notion, elle va avoir un succès absolument considérable, que ce soit au plan académique, on va voir des revues par exemple se créer littéralement sur ce périmètre, surtout en langue anglaise d'ailleurs, il y a vraiment des revues qui s'intitulent Parenting, et qui sont des revues académiques où on ne parle que de ça. Mais on va aussi trouver une vraie section de ces questions de parentalité dans la presse hebdo, dans la presse family, comme on dit. Et puis, ça va devenir un petit segment d'action publique. Et on va commencer à parler d'une politique. Et pour cela, on va parler de politique de soutien à la parentalité. On veut soutenir les parents à exercer leur rôle. Et on peut le faire de multiples manières, bien entendu. Par des informations pour tous les parents, par des conférences, des formations, et puis par des pratiques d'accompagnement qui peuvent être des formes très individualisées jusqu'au coaching, le coaching parental, et puis aussi de manière plus collective. Et puis on va créer toutes sortes de dispositifs, parfois pour accompagner les parents plutôt pour le travail scolaire. Il s'agit d'aider les parents à accompagner le travail scolaire de leurs enfants. Donc vous voyez, tout ça sont des mesures qu'on va finir par englober dans ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. Alors il est important de se souvenir néanmoins qu'au départ, le soutien à la parentalité, ce n'est pas une initiative des pouvoirs publics. Ce sont des initiatives du monde associatif. Ce sont des initiatives qui essaiment sur les territoires où un certain nombre d'associations vont occuper ce créneau de l'aide aux parents, de l'accompagnement des parents. Des groupes de parole, des numéros verts, beaucoup de choses vont être créées à cette époque. On est dans les années 80-90. Et à partir du moment où les pouvoirs publics vont vouloir construire une politique, on va se dire qu'il faut mettre toutes ces initiatives en réseau. Parce qu'il y a des territoires où il y a des initiatives et il y a des territoires sans rien. Donc il faut organiser tout cela, mettre en réseau et soutenir économiquement ces initiatives. Et on va créer ce qu'on appelle les REAP, les réseaux d'écoute, d'accueil, d'appui des parents. Ces réseaux et ces réseaux de réseaux vont finir par mailler le territoire français et on va développer des budgets qui seront distribués par les caisses d'allocations familiales. Cette politique va peu à peu s'amplifier, mais elle reste un petit maillon de ce qu'on appelle les politiques de la famille. C'est un petit budget. Mais en revanche, c'est un segment de l'action publique des caisses de sécurité sociale qui se dédie à la famille qui va devenir de plus en plus visible. Et bien sûr, on va avoir un certain nombre d'acteurs pour dire il faut amplifier, il faut soutenir davantage, il faut structurer davantage, parce que ça reste trop petit au regard des défis auxquels ferait face la France de l'époque. Alors bien sûr, quand on a dit politique publique, on pourrait penser que tout ça est assez simple, il suffit d'envoyer des messages, on se centre sur des bonnes pratiques. Mais en réalité, il y a évidemment une sorte d'hésitation entre ce qu'on pourrait appeler le soutien à la parentalité à vocation universelle, de l'information pour tous, des services pour tous, et puis du soutien à la parentalité pour les parents qui posent problème, et donc du ciblage, parfois du contrôle, voire même de la punition. Donc ces deux volets, évidemment, sont relayés par les discours politiques. Tous les moments où on est inquiet par la montée de la délinquance, ou on est inquiet par des affaires qui défraient la chronique. On peut penser aux émeutes de cet été, mais il y en a eu d'autres dans le passé. On a parlé des sauvageons, à gauche. On a parlé de la racaille, à droite. On a de toute façon parlé de ceux qui posent problème et du fait que les parents ne font pas le boulot, qu'ils ne savent pas éduquer, qu'il y a un déficit d'autorité, que quelque chose là pose problème. Et on a des mesures punitives qui ont été inventées. Alors je pense dans les années 2010, sous M. Sarkozy, au contrat parental, qu'il s'agissait de signer avec un président de conseil départemental pour montrer à des parents que, un, on avait repéré qu'ils étaient défaillants, et deux, qu'il fallait en effet suivre leur conduite pour essayer de faire en sorte de corriger le tir. C'est tout à fait l'esprit dans lequel on se trouve dès qu'il y a des moments de crispation sur l'incompétence des parents. C'est en sous-couche de ce qu'on appelle les politiques de soutien à la parentalité, une hésitation entre deux pôles. On peut essayer de les tenir en même temps, et parfois il y en a un qui prend le pas sur l'autre de toute évidence.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres au public pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur metropole.rennes.fr/education. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.